Alexandre Adler, bonjour.
Bonjour. Au fond, Tariq Ramadan, il n'est ni affreux, ni sympathique. Je suis beaucoup plus choqué par des traîtres juifs comme les Bromanes et autres. Alors évidemment, ça, Monsieur Mermet, le journaliste brejnevien, Monsieur Langlois, le chef de Politis, quelques autres, ils savent dire les choses autrement. Et c'est comme ça qu'on peut pas les coincer, ceux-là. Ces gens-là me semblent infiniment plus méprisables, infiniment plus répugnants.
Merci Alexandre Adler.
Au revoir.
Alors voilà, vous avez été quelques-uns à croire que c'était des imitateurs, des comédiens. Mais pas du tout, c'est un document tout à fait authentique. Vous avez été très nombreux aussi à demander à ce qu'on vous le repasse pour bien comprendre. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un entretien téléphonique entre Alexandre Adler, le journaliste Alexandre Adler, et Madame Elisabeth Chemla, animatrice d'un site internet qui s'appelle Proche Orient, proche-orient.info, et c'est extrait d'une interview téléphonique du 13 octobre dernier. Voilà, c'est un gros dérapage. On va le réécouter pour que vous compreniez bien.
Alexandre Adler, bonjour.
Bonjour. Au fond, Tariq Ramadan, il n'est ni affreux, ni sympathique. Je suis beaucoup plus choqué par des traîtres juifs comme les Bromanes et autres. Alors évidemment, ça, Monsieur Mermet, le journaliste brejnevien, Monsieur Langlois, le chef de Politis, quelques autres, ils savent dire les choses autrement. Et c'est comme ça qu'on peut pas les coincer, ceux-là. Ces gens-là me semblent infiniment plus méprisables, infiniment plus répugnants.
Merci Alexandre Adler.
Au revoir.
Salut Daniel, Gérard de Balaguier, Voix de Sainte-Afrique, Aveyron. Je souhaiterais par ce message lancer un appel à Monsieur Mattei, en tant que médecin d'abord et en tant que ministre surtout, afin que lui, qui sait les souffrances qu'endurent les grévistes de la faim et les conséquences qu'elles peuvent avoir, intervienne auprès de Monsieur Gauthier, directeur de la RH de Midi-Pyrénées, pour qu'une solution favorable et juste soit trouvée. Ainsi, il ne permettrait pas que 5 personnes meurent d'épuisement et que les habitants de la région de Sainte-Afrique n'aient pas droit aux soins. Enfin, à toi, Daniel, ceux qui luttent et qui souffrent ici souhaiteraient le plus tôt possible ta venue et celle de ton équipe. Ne nous oublie pas, merci et à bientôt.
Alors vous voyez Millau, eh bien actuellement à Millau, on construit le plus long et le plus haut pont de France, d'Europe, du monde même, je crois bien. Eh bien, à l'instant où je vous parle, les travaux sont interrompus par une bande d'énergumènes pas contents du tout, qui ont ouvert leur voiture, leur camionnette et qui ont mis leur sono à fond. Donc, ma voix est entendue dans toute la vallée de Millau. Tous les auditeurs du coin n'ont pas besoin d'écouter leur transistor. Ça vient du haut du pont. Pourquoi ces gens sont-ils pas contents du tout? Eh bien, c'est qu'à Sainte-Afrique, A2F, RIQUE, on se bat pour l'hôpital de Sainte-Afrique menacé. C'est une petite ville de 7000 habitants, mais il y a un grand bassin de vie autour, évidemment. Et les habitants de Sainte-Afrique et du coin se battent pour cet hôpital. Et Sainte-Afrique, c'est à côté de Millau, c'est donc le Larzac. Et oui, le héros du Larzac, vous le connaissez. On va le retrouver, c'est l'ami José Bové. Et on retrouvera aussi Monsieur Fauconnier, le maire de Sainte-Afrique. Alors José Bové, ça s'est passé près de chez toi?
Ben écoute, oui, là c'est un mouvement là qui a démarré maintenant depuis plusieurs mois et puis qui maintenant est rentré vraiment dans sa phase d'opposition, quoi. Hein. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'est passé sur tout le sud Aveyron, sur toutes les communes du sud Aveyron, puisque la majeure partie de la population s'est mobilisée. 18 000 votants sur 22 000 inscrits pour un référendum pour dire non à la fermeture de l'hôpital, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une mobilisation quotidienne, maintenant une grève de la faim illimitée qui a démarré avec 5 personnes, médecins, infirmiers, pompiers. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et qui, je crois, va faire date. Et je crois que c'est la suite, bien sûr, du rassemblement de cet été. Tous ces gens qui aujourd'hui dans ce mouvement pour dire non à la restructuration des hôpitaux, non à la fermeture des hôpitaux en milieu rural, eh bien font tous partie de ce mouvement qui refuse l'inéluctable, c'est-à-dire la fermeture des services publics en milieu rural. Et au moment où on est en train de parler, il y a une grande action qui est en train de se dérouler et plus de 500 personnes sont en train de bloquer à l'heure qu'il est le chantier de construction du gigantesque pont de Millau. Avec un slogan simple, puisque les élus ont été capables de se mettre d'accord pour faire ce pont le plus haut d'Europe, pourquoi ne sont-ils pas capables de maintenir les services publics en milieu rural? Donc plus de 500 personnes actuellement bloquent, il n'y a plus un kilo de béton qui peut se faire, et la pile la plus haute du monde eh bien, a cessé de grimper aujourd'hui, et visiblement les copains sont prêts à rester la soirée, la nuit, et plus s'il le faut.
C'est le style Larzac, ça. Hein, il y a eu un référendum, il y a l'hôpital de Saint-Afrique qui est recouvert de bâches noires, il y a ces grèves de la faim, il y a l'interruption des travaux du viaduc, c'est le style Larzac.
Moi, je crois qu'il y a, tu sais, ça fait 30 ans que dans la région nous nous battons. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'extension du camp militaire. Une grande partie des gens qui sont aujourd'hui dans ce mouvement, dans les plus anciens, y avaient participé. Et il y a eu toute cette mobilisation ensuite autour de Roquefort, autour de l'affaire du McDo. Et bien aujourd'hui, c'est autour de la défense de l'hôpital de Saint-Afrique. Et je crois que ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une population qui lutte. Et qui essaye d'utiliser les moyens les plus intelligents pour lutter, qui essaye de se prendre en charge et qui pour l'instant est en train de pas mal réussir parce que visiblement les pouvoirs publics sont en train de commencer de reculer, mais pour l'instant il y a que des promesses pour dire qu'ils vont suspendre la volonté d'arrêter cet hôpital, donc ça ne suffit évidemment pas. Mais je crois que ce qui est formidable, c'est qu'il y a une solidarité de tout le monde et cet hôpital aujourd'hui, c'est une véritable ruche et l'hôpital de Saint-Afrique risque d'être le porte-drapeau de tous ces hôpitaux à travers la France qui sont menacés de fermeture par les plans de libéralisation de la santé.
Alors Alain Fauconnier, vous êtes le maire de Saint-Afrique. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, Saint-Afrique, eh bien c'est en France. C'est une petite ville de 7000 habitants, c'est pas loin de Millau, c'est la ville du Roquefort.
Oui, à côté, oui, c'est un petit peu la cité dortoir du Roquefort, hein, la même partie.
D'accord. Hein? Et là vous êtes en train de vous battre comme des fous, vous et tous les habitants pour sauver votre hôpital.
Oui, tous les habitants se sont mobilisés comme de façon quasiment inespéré, hein, c'est-à-dire tout le bassin de vie s'est levé pour dire non à un protocole qui supprime notre service de réanimation et 30 lits de chirurgie.
Alors, ce que vous avez fait, vous êtes lancé dans une opération assez extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez convoqué vos compatriotes, hein, tous les gens de la région de Saint-Afrique, du pays saint-africain et du canton de Cornus.
C'est ça, Cornus. Oui,
ouais, c'est ça.
Contrefort du Larzac.
Et vous avez fait une consultation populaire dimanche 19 octobre. Et vous avez fait voter, et tout le monde est venu voter.
Absolument, c'était absolument formidable. Il y a eu 18 000 votants, 6 000 qui sont venus voter à l'hôpital de Saint-Afrique. Tout le monde est sorti voter dans les mairies, dans les différents villages. C'était extraordinaire.
Mais c'est un vote symbolique.
Oui, c'est un vote symbolique, mais le symbole était fort. C'est-à-dire que les gens disaient pas, ils venaient pas simplement dire qu'on leur a levé leur service, hein, dont ils avaient, qui avait été tant utile probablement pour leurs parents, hein, ou pour leurs enfants. Ils venaient aussi dire qu'ils n'acceptaient plus d'être méprisés comme ça, qu'ils n'étaient pas des citoyens de seconde zone, et qu'ils n'acceptaient pas ce sentiment d'abandon qu'on voulait leur imposer.
Pourquoi on veut vous fermer votre hôpital?
Pour des raisons économiques, c'est quelque chose qui a été organisé depuis maintenant plusieurs années, et on part du principe aujourd'hui, malheureusement, c'est que tout ce qui est petit coûte cher et n'est pas sûr. Ce qui est absurde, puisque un certain nombre d'études montrent que c'est l'inverse. En fait, ce qui est petit est économe, ce qui est petit est, il y a une espèce de militantisme dans ces hôpitaux. Moi, j'avais un hôpital avant la fusion, avant qu'on me fasse cette espèce de gros hôpital fusionné avec Millau, j'avais un hôpital militant. Où les gens, quand ils venaient le matin, ils savaient que cet hôpital était regardé de partout et qu'on venait nous l'oublier. Ils s'y investissaient, ils s'appropriaient, c'est leur outil. Ils étaient très économes de tout et passionnés.
Vous êtes déjà battu. Il y a quelques années, je me souviens, les gens de Sainte-Afrique avaient laissé des messages sur le répondeur pour une histoire de maternité. Qu'est-ce que c'est devenu?
C'est ça, bien la maternité. On s'est battu, on a gagné. Elle existe toujours.
Alors, on perd pas toujours, alors.
Ah, non, mais non seulement on perd pas toujours, mais on va pas perdre ce coup-ci non plus.
Alors, la maternité?
Et la maternité, elle est là, elle a ce qu'on appelle l'exception géographique. C'est-à-dire, elle est maintenue contre vents et marées. Voilà. Par l'administration, contrainte et forcée, bien sûr. Et si ce protocole était appliqué, il est évident que la maternité serait de nouveau fragilisée et que la deuxième victime serait cette maternité.
Okay. Mais on dit que votre hôpital est déficitaire.
Oui, c'est pas notre hôpital qui est déficitaire. C'est le rassemblement de deux hôpitaux, l'hôpital de Millau et Sainte-Afrique, qu'on a rassemblé dans un seul hôpital. Ce qu'on appelle le CHIC, le Centre Intercommunal du Sud Aveyron.
Qui est à Sainte-Afrique?
Qui est positionné sur deux sites. On a fédéré deux hôpitaux. Il y avait deux petits hôpitaux.
C'est Millau qui est déficitaire?
Non. Les deux étaient un peu déficitaires. On avait 1 million, je crois, de francs de déficit au moment de la fusion. Et 3 ans après, il y a 35 millions. Donc c'est impensable. La démonstration est faite que moi je peux pas imaginer que ça n'ait pas été organisé. Hein. Pour qu'on passe d'un déficit cumulé de 2 millions, ce qui est trois fois rien dans les hôpitaux aujourd'hui, compte tenu des situations, on le multiplie par 10 en 3 ans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut noyer son chien? Voilà,
c'est ça. C'est d'ailleurs quand on veut noyer son chien, on arrive à, par tous les moyens, à lui mettre la tête sous l'eau.
Oui, mais attendez, mais qui c'est ce on qui,
Je pense qu'aujourd'hui, l'administration, le gouvernement, l'administration sont dans des logiques qui, toujours, de vouloir recentraliser les choses, faire des grosses structures et tuer tout ce qui est petit sur les territoires. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui sur les services publics, dans toutes nos petites communes, nos petits cantons. Hein. On voit ici la trésorerie, demain l'équipement, après-demain d'autres services, la poste, là, maintenant c'est l'hôpital. Le tour, c'est l'hôpital.
C'est combien d'emplois, votre hôpital?
C'est 320 emplois, je pense. Hein.
Ah, mais dans une ville de 7000 habitants, c'est beaucoup.
Ah oui, c'est le plus gros employeur. Mais c'est pas sur ce terrain-là. Bon, c'est vrai que c'est important, hein. Mais on est pris à nous promettre qu'on ne perdra pas d'emploi. On nous mettra d'autres services. Mais ce qui est en question là, ce sont des services, ce qu'on appelle les services actifs. Ce sont des services en cas d'infarctus, en cas d'urgence grave. C'est ces services-là qu'on supprime.
Si on vous le ferme, c'est-à-dire si on vous ferme la réanimation, si on vous ferme la chirurgie, ça veut dire quoi pour la ville, pour la société?
Pour la société, ça veut dire qu'on nous abandonne, d'abord, un sentiment d'abandon, de mépris. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir sur ce territoire. Hein.
Plus d'espoir, c'est-à-dire?
Mais on n'a plus de perspective de pouvoir garder les jeunes pour travailler au pays. Le retour même des personnes âgées, on pourra pas les soigner dans de bonnes conditions. C'est très profond, ça va au-delà de la santé des gens. C'est également, c'est une espèce de désespérance. On considère que bon, ces territoires-là sont condamnés. C'est-à-dire, c'est une espèce de condamnation. Et les gens ont dit maintenant, c'est terminé. On n'acceptera plus d'être méprisé comme ça et d'être considéré comme des citoyens de seconde zone. C'est plus possible.
Mmh. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Parce que vous remuez, hein? Vous remuez, c'est façon Larzac. Hein, c'est le style Larzac. C'est-à-dire que vous faites des actions, il y a des grèves de la faim, il y a l'hôpital est bâché de toits de plastique noir.
Oui, c'est ça, l'hôpital est bâché de plastique noir.
Vous avez organisé ce vote?
On a organisé le vote. Bon, aujourd'hui, on a amené donc ces grévistes à la fin et je les salue là parce que je pense qu'ils écouteront. Hein. On les a accompagnés, 5000 personnes les ont accompagnés à l'intérieur de l'hôpital aujourd'hui.
Qui fait la grève à la fin?
Mais il y a un médecin, 3 infirmières et un sapeur-pompier à la retraite. Hein. Ils sont 5, c'est le 6e jour, ils sont très déterminés, la population les soutient, ils viennent les voir, il y a un monde de fous qui vient à l'hôpital pour les encourager, les soutenir. Et depuis ce matin, le grand chantier du viaduc de Millau, c'est-à-dire le plus grand chantier de France aujourd'hui, et le plus grand pont du monde, hein, aujourd'hui est bloqué parce que 500 personnes à peu près sont en train d'occuper occuper le site pour dire c'est pas possible de laisser à côté mourir 5 grévistes de la faim qui se battent pour votre santé aussi. Hein.
Qu'est-ce que vous avez obtenu jusque-là?
Jusque-là, on a obtenu depuis avant-hier un premier engagement de rétablir les services, les 5 lits de réanimation. Hein. C'est une première étape, ça reste à confirmer. Alors,
si vous gardez la réanimation, vous gardez l'hôpital, non?
Mais théoriquement, si on garde la réanimation, c'est une première étape, mais sans chirurgie réglée, ça n'a pas grand sens aussi. Hein. Bon, c'est un tout, hein, les services actifs, c'est la maternité, l'AREA et de la chirurgie réglée. Et en particulier la chirurgie viscérale. Donc c'est là-dessus que nous sommes très fermes. Les grévistes à la fin ont établi un protocole à partir duquel ils accepteront de cesser leur action. Et là-dessus, dans ce protocole, il est clair qu'il y a l'AREA, la chirurgie réglée, la chirurgie ambulatoire et la pérennisation de tout le secteur maternité. Dès l'instant, on a obtenu ces deux choses. Voilà.
Alors c'est un combat symbolique parce que nous on avait suivi l'histoire de la maternité de Paimpol. Hein, pendant des années on a eu des messages avec cette maternité et on a essayé de faire connaître leur combat. Elles ont perdu, elles ont fini par perdre. Mais il y a une association des petites villes de France qui est très intéressée par votre combat parce qu'il y a beaucoup de petites villes françaises qui sont dans la même situation que vous, menacées par la même chose.
Tout à fait. La PVF, les petites villes de France, qui est présidée par la présidente Malvy, a fait faire une étude au sujet de ces hôpitaux dits de proximité pour démontrer qu'ils étaient indispensables pour la couverture sanitaire du territoire et surtout qu'ils n'étaient pas dangereux, contrairement à ce qui s'était dit. Parce que la première campagne contre les petites maternités, c'était de dire les petites maternités sont dangereuses. Alors toutes les statistiques montrent que c'est faux. Ce sont des petites maternités où, au-delà du fait que la naissance se passe dans des conditions quasiment familiales, particulières, c'est pas des usines à faire des bébés là. Hein. Donc, en plus de ça, ce sont des maternités où il y a, dans la maternité de Sainte-Afrique, il n'y a eu aucun accident de naissance depuis 10 ou 15 ans. Enfin, il n'y a rien eu. Enfin, ça se passe très très bien parce que les personnes sont bien suivies. Donc, on sait les expédier sur les centres plus importante dès l'instant où on découvre un risque. Hein. Donc, c'est capital de maintenir ces petites structures et la PVF fait un gros travail là-dessus.
Que veut le gouvernement d'après vous? Que veulent les autorités sanitaires?
Ce qu'ils veulent, c'est supprimer ces structures-là, c'est maîtriser des grosses structures, des gros spécialiser des sites, des gros sites, pensant que à partir de là ils pourront mieux maîtriser les budgets. Hein. Je pense que c'est une erreur gravissime parce que ça s'accompagnera de transports, de risques et puis ça. Puis sur le plan, je veux dire philosophique, sur le plan sociologique, c'est pas acceptable. Mmh. Et que moi, je connais des personnes âgées du fin fond de l'Aveyron, là, de Camarès, de Peu-et-Coufouleux, des mémés. Comment voulez-vous qu'elles aillent demain à Rodez faire 100 km, elles ont pas de voiture, elles ont 75 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ces sociétés? Qu'est-ce que c'est que ces sociétés? Donc ça, c'est pas tolérable.
Prochaine étape,
une grande fête à la salle des fêtes de Sainte-Afrique pour fêter le retrait du protocole et qui suivrait donc la fête qui a eu lieu hier où on a fêté avec Monde Solidaire la grande fête du plateau du Larzac de cet été. Ça fera en quelques jours, on aura eu deux fêtes à la salle des fêtes.
Mais ça, vous n'avez pas encore la date de cette fête-là parce que c'est pas encore fini le combat.
Mais ça peut pas durer. On peut pas imaginer qu'on fasse pas cesser cette grève de la faim à ces 6 personnes. C'est pas imaginable.
Il est sympa le gars là, le maire. Hein,
ah ouais ouais ouais. Fauconnier. Hein? Alors pour un socialiste, il va pas mal.
Ça, je viens de l'enregistrer, on va le diffuser en boucle. Rire de Brejnevien. Donc voilà, vous avez compris ce qui se passe à Sainte-Afrique à suivre. Et vous avez compris aussi, on vous l'avait promis, aujourd'hui c'est l'hommage à François Béranger. Vous avez été très nombreux à le demander, à envoyer des messages. Et si, comme nous, on a quand même pas mal entamé cette émission, peut-être qu'on continuera demain. Parce qu'il y a auparavant, les messages qui ont suivi l'émission de vendredi, le reportage d'Edouard sur les marques les marques avec toute cette histoire de jeunes qui portent des marques et qui sont marqués par les marques.
Ouais, mais c'est la personne qui a dit il y a pas très longtemps que j'emmerde la pub et j'emmerde ceux qui la font. Ben, en écoutant ton émission d'aujourd'hui sur la publicité et sur les marques, parce que c'est intimement lié de toute façon, eh ben, je le redis haut et fort. Et donc là, écoutez-moi bien, cher auditeur, j'emmerde la pub et j'emmerde ceux qui la font. Et c'est vraiment point la ligne. Et j'en démordrai jamais et je le penserai vraiment définitivement. Salut. Et je suis pas un fasciste.
Oui, bonjour Daniel, je t'écoute depuis si longtemps. Mais alors, quel reportage, c'est un premier reportage. Bon, c'est peut-être un hasard, je ne sais pas, mais quelle photo, quelle constatation, quelle tristesse. On a été, c'est vrai, un peu pareil, mais là, je sais pas, c'est un paroxysme, non? Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement flagrant. Merci, à bientôt, salut Daniel, Jean-Pierre, Rennes.
Nous écoutons ton reportage sur les ados qui prétendent faire du bise, comme ils disent, pour se payer des Nike. Simplement une petite réflexion qui n'est pas de moi, que j'ai entendue il y a quelques temps à la télé. Le banlieusard vend de la coke pour se payer des Nike et le cadre supérieur de chez Nike vend des Nike pour se payer de la coke. Voilà, bonne soirée, salut Daniel.
Ouais, bonjour, là, c'est Yann des Yvelines là et tout, j'écoutais l'émission là sur les marques. Bon déjà je suis peut-être le seul à écouter France Inter, c'est pas grave, mes potes ils m'appellent Bac plus 12. Non, c'est parce que moi je veux réfléchir, je veux comprendre quoi. Il y a un truc qui a pas été dit sur les marques. C'est que les marques, si les jeunes ils achètent des marques, c'est déjà c'est de la qualité. On voit bien la différence entre une marque et pas une marque, quoi. C'est peut-être plus cher, mais il y a la qualité. Et puis un autre truc qui a pas été dit, quoi, c'est que bon, même si la marque, pour nous, ça nous démarque, parce que ça veut dire voilà qu'on est capable de s'acheter ces marques-là, ou on est capable même de les voler, je sais pas, mais voilà qu'on est capable de les avoir. Donc on est des merdards. Mais ce qui a pas été dit, tu vois, c'est que en vérité, les pauvres ils imitent les riches. Donc nous on imite ceux qu'on voit à la télé, tout ça. Il y a de la marque et tout. On a envie de porter les mêmes choses. Si les riches ils donnaient l'exemple, tu vois, à s'habiller, je sais pas moi, pas trop cher, puis le reste ils donnaient aux défavorisés, bon, on ferait tous pareil. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'exemple qu'on a. L'exemple qu'on a, c'est quand t'es pété de thunes, bah tu penses qu'à ta gueule. Il y a des mecs qui peuvent crever de faim et puis toi tu peux t'acheter un costume à 10 000, c'est pas un problème quoi. Voilà, c'est l'égocentrisme à fond. Et moi je te dis franchement, on va dans le mur. On va dans le mur avec cette société quoi. C'est tout. Parce que l'avoir, il est passé devant l'être. L'avoir, il est passé devant l'être, et puis la quantité, elle est passée devant la qualité. Tu le vois maintenant, aujourd'hui, il y a un dit, ah, toi, ah, t'as vendu 2 millions de disques, c'est bien, et tout, comme si c'était un gage de qualité, genre 2 millions de disques égale qualité, pas du tout. Tu peux vendre 2 millions de merde. Et c'est pareil, et voilà, moi, ça m'énerve, et c'est tout, quoi. Enfin, moi, j'écoute votre émission, et super cool, et j'apprends plein de trucs. Merci, ciao.
J'ai des relations mondaines, j'ai des relations. Je connais la baronne du Maine, son fils Absalon. En fait, c'est ce que m'a évoqué l'émission d'aujourd'hui, Lacoste à tout prix, Lacoste ou rien. Ça m'a rappelé la réplique de Tiki Olgado dans Une époque formidable, qui quand Gérard Jugnot lui dit c'est pas un truc comme ça qu'il fallait prendre, c'était un Annapurna. Et Olgado répond dans la poubelle où je l'ai trouvé, il n'y avait pas toutes les marques, avec son accent. C'est l'ACMA, 50 ans, les Pyrénées n'ont pas bougé, si j'y suis.
C'était très con le capitalisme au début. Il payait les hommes sandwich en temps de crise. Et en fait maintenant, ils se sont rendus compte que il suffisait que les gens payent pour être hommes sandwich. C'est vraiment magnifique.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Tout d'abord, un grand merci pour vos émissions. Ça donne vraiment espoir de voir qu'il reste des libres penseurs dans les médias. Et merci tout particulièrement pour le sujet de vendredi. Les gens sont tellement à 10 000 km de cette conscience-là vis-à-vis du danger des marques. On parle beaucoup en ce moment de laïcité en opposition au prosélytisme religieux. Quand est-ce qu'on dira que la marque est aussi le signe d'une certaine religion, bien plus envahissante, peut-être bien plus dangereuse? Et puis, une idée, pourquoi ne pas parler de la décroissance dans une prochaine émission?
Ah, ça, il y a un complot, hein. Il y a un complot de la décroissance. Ça, vous y tenez, ça revient souvent dans les messages. Donc, voilà, vos commentaires, quelques-uns de vos commentaires suite au reportage d'Edouard Milsafif sur les marques avec l'intervention de Paul Ariès et son bouquin sur ce sujet. On va rendre hommage à François Béranger, mais il y a encore des messages. Et ouais, vous n'arrêtez pas.
Comment SDF, là, qui est mort de froid, là? Bah moi, je me demande si on va se battre leur corps des anciens qui sont morts de la canicule cet été. Alors je sais pas, il va falloir engager des paris. Moi, je vais pas jouer le bookmaker, je vais pas vous laisser mon numéro de téléphone, mais bon, bah, elle est belle, notre démocratie, notre république. On est qu'au mois d'octobre, il y a déjà un SDF qui est crevé. C'est bien, alors continuons comme ça. C'est bon, hein. On va se débarrasser de tout le monde comme ça, les anciens, les SDF, tous les indésirables, on va dire. Allez, salut.
Bonjour, j'ai un petit coup de gueule en passant, vous en ferez ce que vous voulez. Des gamines qui se font violer par 15 petits salopards en même temps, à plusieurs reprises. Et puis on condamne, je sais pas, 4 ans de prison maximum, avec plus de la moitié avec sursis. Je trouve ça scandaleux, scandaleux, c'est une honte. On vit vraiment dans un pays de merde.
Je vous ai écrit une lettre le 3 octobre 2003 et j'attends toujours une réponse. J'avais mis mon numéro de téléphone. J'aimerais bien avoir une petite réponse de la part de Daniel Mermet. Salut!
Ben, vendredi dernier, ça a été une sale journée pour moi, hein, parce que c'est la première fois que je venais le voir dans des conditions et des endroits pareils, quoi. Parce que malgré mes réticences à entrer dans une église, ben, j'ai quand même tenu à lui rendre ce dernier hommage. Je suis donc allé à Montpellier, à la paroisse Saint-François. Il a chanté une dernière fois là, dans cette paroisse. Et ce con, il m'a fait pleurer. Hein. Et ensuite, je suis allé au cimetière. Le temps, il était gris. Il faisait froid, il allait pleuvoir. Hein. C'était vraiment la même météo que dans mon cœur ce jour-là. Eh ben écoutez, c'est quand même con, quoi, parce que quand on voit tous les vieux cons qui restent encore en vie, et les vieux salauds, les vieux xénophobes qui restent encore en vie, et puis on voit partir tous les mecs qui sont bien, quoi. Alors je voulais dire un dernier salut à mon camarade. Allez, bye bye.
Salut Daniel. Faites le bon Dieu cet hommage au père François, François Béranger bien sûr, pour tous ceux qui y croyaient à 20 ans et qui continuent d'y croire à 40 et plus. Eh, Premier ministre, je joue pas avec mes nerfs, j'ai un flip de travers, une arête dans le gosier, je peux plus respirer. Salut Daniel, c'était Christophe de Nantes.
Natacha, ton nom c'est déjà un voyage, à quoi bon dépenser nos sous si c'est pour partir et pour où à partir? Je préfère les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu, où l'on découvrait des merveilles. Natacha. Il faut pas oublier que François Béranger avait su mettre des mots sur nos révoltes, mais également il a si bien chanté l'amour, le bel amour, et puis la sensualité. Je suis bien triste aujourd'hui. C'est Elisabeth des Bouches-du-Rhône. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, François Béranger.
Flight number 2, arriving from
Newport. Salut Daniel, c'est Jean-Marie de Séné dans le Morbihan, 47 ans aux fraises et plus toutes ses dents, comme aurait dit François. Moi je pense que c'est important de faire une émission hommage à François Béranger. Car autant que le chanteur et le poète, c'est aussi le militant de l'utopie, et véritablement engagé celui-là. Avec le départ de François, c'est beaucoup de l'esprit de mai qui s'en va.
Moi j'aime bien 68 arts, même si le look est un peu ridicule, jean sale et cheveux gras. J'aime bien les mecs qui continuent à croire comme ça à des vieilles utopies. Et qui continuent à pas croire au modèle de société qu'on leur propose depuis des années. Ils ont bien raison.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
François Béranger, 45 balais, chanteur.
Vous pouvez le prouver?
Parfaitement. Parfaitement.
Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer non, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga, ma grippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitija. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse. Rapport à mes antécédents, moi je peux pas dire que je sois en liesse. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que 3 ans? J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
François Béranger, vous êtes inculpé d'incitation à la subversion et il s'agit de récidive. L'ensemble de votre œuvre est un appel à la subversion.
Parfaitement. On vit dans une société où la seule chose qui compte, en fait, c'est le profit.
Plus je me pose de questions et moins je trouve de solutions.
C'était entre 1954 et 1958. Je faisais partie d'une troupe d'amateurs qui s'appelait La Roulotte, qui était d'ailleurs une troupe assez originale à l'époque parce qu'elle était elle était composée de gens d'horizons très différents et de classes sociales très différentes. Ça se situait géographiquement dans le 9e, 10e, 11e arrondissement de Paris. Et il y avait là-dedans des gens qui venaient des scouts de France, des éclaireurs unionistes, des éclaireurs de France, des jeunesses communistes. Et tous ces gens-là s'étaient réunis, enfin, un peu fortuitement, et avaient décidé de créer une troupe d'expression, on disait l'expression à l'époque, Et on était spécialisé dans la fabrication de spectacles pour les publics défavorisés, c'est-à-dire
les handicapés,
les hôpitaux, les enfants délinquants, etc. Et c'était assez salutaire parce que ça nous sortait de nos propres petits problèmes à nous et ça nous projetait vers des réalités qui sont toujours d'ailleurs extrêmement brutales et pénibles. Donc j'ai commencé à chanter là, à ce moment-là, à la roulotte, donc jusqu'en 58. En 58, je suis parti à l'armée. Je suis resté 31 mois. Quand j'en suis revenu, c'était l'Algérie et tout ça. j'avais plus tellement envie de chanter. Je suis retourné à mon métier puisque les employeurs sont tenus de reprendre les militaires démobilisés, c'est-à-dire chez Renault, à la régie Renault. J'étais plus exactement ouvrier, j'étais technicien de fabrication. Enfin, je travaillais dans les ateliers, sur les chaînes, comme les autres. Et puis, pour des raisons psychologiques, ça m'a été vraiment très très dur de rester chez Renault. Enfin, il y en a d'autres qui y restent, bien entendu, dans les usines. Enfin, disons que moi, j'ai fait des rencontres. J'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont permis de me sortir de ce milieu-là, que je supportais finalement extrêmement mal.
Ouais, salut, c'est Régis en Tarn-et-Garonne. Régis Auchard. Ouais, bah c'est en allumant la radio tout à l'heure pour écouter la basse isolée que j'avais appris la mort de François Béranger. Puis bah... Ouais, moi, c'est quelque part, je pense que c'était le début de ma conscience politique de l'entendre chanter. J'avais revu il y a 2 ans, ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui, ça m'a fait de la peine. Voilà. Salut.
Je donne à ceux qui sourient, et qui ont bien le droit de sourire, rendez-vous dans 20-30 ans, pour reparler du bon temps. Mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre, à refaire le présent. Voilà, celui qui a fait ces couplets-là, il chantait à la fête de Hello, à Mériel, en 74. Et il disait que chacun prenne sa guitare et fasse sa propre chanson. Qu'il aurait pu venir comme ça nous faire entendre ses discours, et ses chansons d'amour. On les a pas assez entendues, ces chansons d'amour. J'aimerais bien qu'on les entende un peu, peut-être une par jour, et ses discours aussi. Ça m'aiderait, moi. C'était Sophie. Au revoir.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Bah oui, évidemment que oui, il faut faire une émission sur Béranger. C'est très important. Moi, j'ai 31 ans. Je connaissais pas Béranger dans les années 70 tout simplement parce que j'étais pas née, mais j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir des gens plus vieux autour de moi qui me l'ont fait découvrir. Les jeunes aujourd'hui savent pas qui c'est, on l'entend jamais, donc il faut qu'ils l'entendent, voilà, il faut qu'ils l'entendent, on en a besoin, des fois on se sent un petit peu tout seul, on sait pas trop comment on fait pour pas désespérer, on a besoin de pas se sentir tout seul, alors ton émission à toi, elle répond à ce besoin-là, ton répondeur, tous les gens qui appellent, fait penser souvent qu'on est plein de gens différents, que la France c'est pas que des beaufs, donc merci de ça, et écoutez Béranger, ça fait le même effet. Ça donne de l'espoir quand on écoute Béranger aussi finalement, voilà. Donc oui, il faut faire une émission spéciale sur Béranger pour les jeunes, voilà. Merci beaucoup, merci. C'était Anne, Paris.
Plus je me pose de questions et moins je trouve de solutions. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que cherchons-nous? Qu'attendons-nous? Pendant ce temps, je vois passer le temps qui passe sans s'arrêter. Alors je décide de vivre pour rattraper. Bien que j'ai lu dans de gros livres que le temps perdu ne se rattrape plus.
Un jour, j'ai eu des émotions extrêmement fortes, comme ça, en 68. Oui, parce que je confonds toujours 58 et 68, c'est deux années cruciales pour moi. 58, c'est l'année où je suis parti en Algérie, où j'ai découvert un certain nombre de misère que j'ignorais dans ma naïveté enfantine presque. Et puis 68, c'est ce que vous savez, mais c'est pas seulement mai 68, c'est aussi Prague. Et puis aussi, je suis retourné en 68, je suis retourné en Algérie. Et là, j'ai vu des choses aussi.
Que peut-on dire alors de 78, c'est l'année prochaine?
Eh ben,
58, 68, 78.
78, c'est la grande année des multinationales. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit enfin que les pouvoirs politiques n'ont plus de pouvoir, en fait, sinon celui de la façade. On est complètement gouverné par des forces occultes extrêmement puissantes.
C'est votre engagement politique, là?
Non, vous savez, moi, je suis pas tellement engagé politiquement au sens étroit du mot. Je fais partie d'aucun parti, d'aucune chapelle. Il se trouve que les gens qui me soutiennent et qui viennent nous entendre se sont sans doute identifiés à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Parce que ce que je dis et ce que je fais, c'est ce que peut dire et faire n'importe qui, en fait.
Bonjour à tout le monde. Ben, moi aussi, je suis triste de la mort de François Béranger parce que c'était un type qui m'avait appris à aimer, à rêver, à lutter et à espérer. Et sa mort, ben, rendre hommage à la mort, c'est toujours un petit peu pénible. J'aurais voulu tellement lui rendre hommage de son vivant. Salut François.
Oui, bonjour, c'est Robert. Voilà, je vais vous voir parce que c'est la première fois que je vous passe un coup de fil. Et je vais peut-être un peu balbutier parce que je suis ému. Je viens d'apprendre que Béranger est décédé, ce qui me touche d'une part. Et d'autre part, je l'ai appris en écoutant tout à l'heure dans la voiture les messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. C'est ça qui m'attriste encore plus. Et ouais, alors, il faut que nous vous passiez encore des choses qu'on n'entend pas ailleurs parce que vous êtes les seuls à pouvoir nous sortir un peu de ça. Et voilà, c'est tout. C'est simplement continuer à nous passer du Béranger, du Boris Vian, du Bobby Lapointe, du Manu Chao aussi, et Tête Noire, Garçon Boucher et Noir Désir, hein, les pestiférés. Alors, s'il vous plaît, passez-nous ça pour nous, pour nos gosses aussi, parce que il faut qu'ils écoutent tout ça, qu'ils ne restent pas dans leur carcan qu'on veut bien leur faire entrer avec... vous voyez ce que je veux dire. Allez, salut.
Ouais, bonjour, là-bas chez Issy. Je vous appelle parce que ça... C'est marrant, ça fait 3 jours que Béranger est mort et... ça a vraiment du mal à passer. Je sais, je voudrais pas m'éterniser là-dessus, mais... J'ai vraiment eu chagrin ce matin, là. J'ai écouté ces cassettes, je me suis écroulé en larmes parce que c'est... Je me suis rendu compte à quel point ce type avait enjolivé mes 20 ans et avait mis des mots sur ma révolte. Et puis je voudrais simplement lui dire que là où il est, que moi aujourd'hui mes enfants, ils écoutent Trio, ils écoutent des Têtes Raides, ils écoutent La Tordue, ils écoutent tout un tas de groupes comme ça qui sont assez engagés politiquement. Et je voudrais lui dire simplement que je pense qu'il y est pour quelque chose, quoi, que le fait que j'ai été sensibilisé par lui à chanson engagée, et ben je l'ai repassé à mes mômes, et voilà, là, l'histoire continue, quoi. Et on continuera de pas se laisser faire, et d'être vigilant. Merci, François. Salut.
Une autre chanson urbaine, que c'est une chanson que j'ai commise après avoir vu une toile d'un peintre qui s'appelait Max Ernst. Et enfin, c'était pas véritablement la toile, c'est une reproduction en noir et blanc parce que l'original on peut pas le voir vu qu'il est aux États-Unis. Et ça s'appelle Le Monument aux Oiseaux. Là le soleil, on ne l'attendait plus celui-là, qui fait fumer le vieux goudron mouillé, à moins que ce soit les phares d'une balayeuse qui racle dans la nuit toutes les saloperies
ça y est, je l'ai enfin trouvé. Mais je ne sais pas où aller. Je marche dans la forêt des rues. Je sonne aux portes, on croit que j'ai bu. Si jamais vous l'apercevez, dites-lui que je l'attends où elle sait. Elle ne pourra pas se tromper. Ça fait 1000 ans qu'on est à se chercher.
Merci bien, pleurez much. C'est parce qu'on dit que qu'il n'y a pas de tour de chance en chanson d'amour. Alors maintenant, on va faire la chanson d'amour. Mais en fait, moi, je crois que toutes les chansons, c'est un peu des chansons d'amour. Si on veut bien les entendre, enfin, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les entendre pas seulement avec les circonvolutions de son cerveau, mais aussi avec ses tripes et puis ce qu'il y a au-dessus, j'ose pas dire non parce que c'est ridicule.
Oui, c'est Thierry de Chambéry. Ben, moi, je suis triste. Moi, je suis triste parce que François, le beau François Béranger, nous a quittés. Ça faisait un moment que on n'entendait plus vraiment parler de François Béranger. Mais quand on a eu 17 ballets, quand il faisait ses chansons, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on a toujours quelque part dans un petit coin de la tête. Et je voulais juste faire un grand salut à François de là-haut, là où il est. Voilà, c'est tout. À bientôt.
Salut, ben, Thomas de Lyon. Non, c'était juste pour dire que moi j'ai 23 ans et François Béranger, je le connais pas. Donc comme disait la dame qui vient de laisser son message à l'antenne, eh ben ça serait bien de faire une émission spéciale parce que à part qu'on me dise que c'est un type très bien, je connais pas du tout. Voilà, salut.
Moi, je suis un artisan. J'essaie péniblement de faire des chansons et des musiques et de les travailler avec les musiciens à qui je travaille, qui sont des gens inventifs et qui m'amènent énormément de choses, qui m'ont amené beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je me situe comme un artisan, parce que quand on construit quelque chose, une chanson ou un tour de chant, ou ça ressemble plutôt à un travail artisanal, patient. Et vous savez, on remet 100 fois la chose sur le métier, on la reprend, on l'abandonne, on la reprend. Ça marche pas. C'est un peu comme le fabricant de violon, enfin comme un luthier ou comme un ébéniste. Je sais bien que c'est une race en voie de disparition. Et enfin, c'est comme ça qu'on travaille. Et je revendique beaucoup ça. Or l'artiste, je sais pas ce que c'est. L'artiste, c'est quoi? C'est aussi bien celui qui fait pousser un carré de poireaux dans son jardin et qui s'éclate, comme on dit aujourd'hui, à le faire, parce que d'année en année, les poireaux sont de plus en plus gros. Et c'est un acte créatif de faire pousser des poireaux. Je me situe pas différemment du jardinier retraité de la RATP qui fait pousser son carré de poireaux et qui est fier de l'avoir fait.
C'est quelqu'un qui a marqué ma jeunesse, moi, parce que j'étais à Meudon au lycée avec Emmanuel, sa fille, et que j'allais prendre des goûters chez eux. C'était une maison super sympa. J'ai des souvenirs très 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 chouettes de livres, de musique partout, de coussins. Il y avait un perroquet même qui était très bavard. Et puis c'était quelque chose qui changeait tellement de mon univers familial que moi ça me faisait rêver. Et puis c'était en totale contradiction avec la petite bourgeoisie meudonnaise. Donc ça, c'était pas pour me déplaire. Et voilà, et je me souviens d'un chic type, quoi. Et puis, ben, on écoutait sa musique, c'était phénoménal pour nous dire, tiens, toi, ton papa est chanteur, et puis, il dit des choses bien, quoi. C'était, bon, ben, c'était tout ce côté, en action, quoi. Et voilà. Et puis, ben, quand j'ai appris sa disparition, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et puis, même si j'ai perdu Emmanuel depuis 25 ans, voilà, ça m'a replongé dans mes souvenirs. Et puis, dans les belles années, quoi, je devais avoir 16-17 ans. Et ben, écoute, Emmanuel, je pense à toi. Je sais qu'il y avait aussi un frère. Voilà. Et puis, merci pour ces goûters qui datent, mais qui me sont restés, qui me font chaud au cœur. Voilà.
Bonjour Daniel, Béranger est mort et un doux et émouvant souvenir me vient quand Natacha, notre fille aînée, nous lui avons souhaité la bienvenue avec la chanson Natacha de François Béranger que nous lui passions en boucle, pendant que dans les autres chambres de la maternité de Moissac, on devinait la mélodie sortie des petites boîtes à musique. Et c'est rythmé par les magnifiques paroles de cette chanson que nous avons appris le bonheur de la vie à trois. Alors je voudrais remercier François Béranger de nous avoir offert cette chanson comme une fleur de celle qui pousse à l'intérieur. Cathy Sala de Moissac. Et merci si tu veux bien passer encore une fois cette chanson à l'antenne. Au revoir.
Natacha, ton nom c'est déjà un voyage. À quoi bon dépenser nos sous, à vraiment partir et pour où? Je préfère les rivages ombreux de notre grand lit au drap bleu où l'on découvre des merveilles. Natacha, mon ventre est une plaine à blé où le lion court après la vierge dans le soleil de juillet. Et la plaine, quand elle finit, c'est pour venir caresser des montagnes douces où je cueille des fruits des lecteurs. Natacha, après les monts, après les plaines, on arrive dans un pays où les mots ne peuvent plus rien dire. Ton visage avec ta bouche qui s'entrouvre, avec tes yeux qui cherchent l'ombre. Natacha, l'air que je respire et le tien, je me baigne dans les grands flots de tes cheveux abandonnés. Nos navires, selon le temps, selon la mer, vont calmement ou bien se brise, mais c'est toujours pour le plaisir. Natacha, en toi je fais de longs voyages, les plus beaux, les plus incroyables, il me semblait que toi aussi. Tu t'en vas faire le tour du monde, le vrai cette fois, avec des trains, des Boeing, des Mac, des turbines. Je crois bien que tu reviendras, non pas que je sois prétentieux, mais mon voyage c'était bien mieux. Je préfère les images ombreuses de notre grand lieu de rappeler.
Hommage à François Béranger, ça continue demain, il a encore des choses à dire et à chanter, il y a encore beaucoup de messages, donc on retrouvera demain François Béranger. Merci à Claude Villers, extrait de Radioscopie, Jacques Chancel, non c'est Jacques Chancel, c'est de Radioscopie, et Claude Villers, c'est le tribunal des flagrants délires. Salut amical à Jean Morzadec. Merci aussi au maire de Sainte-Afrique, à la Fauconnière, à José Beauvais. Technique aujourd'hui, Patrick Henriet, Étienne Michka, assistant, Édouard Rex, pardon. Répondeur Christophe Humbert, le numéro du répondeur de la basse du c'est toujours le 01 56 40 37 37. Choix musicaux Koy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission de modeste et géniale. Derrière moi, vous entendez l'an 01, on en parlera demain. Salut, à demain, 17h, le journal Delphine Simon. Salut.